Il est 7h.
L'idée, c'est que les clients bénéficient de véritables vacances et de soleil et de la nourriture grecque, enfin tout ce que ce magnifique pays a à offrir.
Piscine, soleil, mais aussi tests réguliers et interdiction de sortie. Est-ce à ça que ressembleront nos vacances cet été pour voyager en toute sécurité? Une expérimentation est lancée dans un complexe de l'île de Rhodes. Nouveau tour de vis ou pas, conseil de défense sanitaire ce matin, élargissement des restrictions, vacances scolaires avancées ou confinement, plusieurs scénarios sont à l'étude. Dans ce journal également, l'appétence des consommateurs, appuyée par la pression du législateur, les grandes surfaces et les grandes marques priées de se mettre à la vente au vrac. Et puis, un rapport qui risque d'alimenter le sentiment anti-français au Mali. Paris accusé de bavure lors d'une frappe aérienne en janvier dernier. On en parle justement dans le regard international de Vincent Hervouette.
Oui, la France toujours sur le banc des accusés en Afrique. Peut-être qu'elle devrait envisager de rentrer à la maison et de s'occuper de ses propres affaires.
L'édito sport de Virginie Fulpin dans la foulée. Et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Souvenez-vous, avant, il y a bien longtemps à Paris, il y avait ce qu'on appelait des bateaux-mouches. Quelle est leur origine? Je vous le raconte dans un instant.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Pourra-t-on voyager cet été et dans quelles conditions? Dès lundi, le Conseil scientifique estimait que la période estivale pourrait être plus difficile que l'an dernier. Alors dès à présent, certains se préparent.
Comme cette agence de voyage néerlandaise qui va envoyer le mois prochain près de 200 cobayes en Grèce, sur l'île de Rhodes. Expérimentation, grandeur nature, que nous détaille Pierre Herbulot pour Europe 1.
Pas de comprimés à avaler, pas de vaccin à essayer. La seule mission des 189 cobayes, bronzer au bord de la piscine. Les gouvernements néerlandais et grecs ont validé le projet, mais à certaines conditions. 4 tests antigéniques et PCR, 2 à l'aller, 2 au retour. Plus une quarantaine de 5 jours et, pendant les vacances, interdiction de sortir du complexe hôtelier. Seul moyen de préserver la bulle de voyage, comme l'appelle Cécile Revol. Elle est directrice générale pour la France de l'agence Sunweb, à l'origine de ce test grandeur nature.
Vous savez, il y a des gens qui partent en club all-inclusive pendant une semaine et qui ne quittent pas l'hôtel. Donc c'est ce type de projet et d'expérience que l'on propose. On a choisi donc un hôtel 5 étoiles, qui est plus un resort qu'un hôtel d'ailleurs. L'idée, c'est que les clients bénéficient de véritables vacances et de soleil et de la nourriture grecque, enfin tout ce que ce magnifique pays a à offrir.
Objectif de l'agence, prouver qu'il est possible de voyager sans emporter ou rapporter le virus dans ses valises, avec l'espoir que ce protocole vacances, si c'est un succès, séduise les autres gouvernements européens à quelques mois des vacances d'été.
Voilà donc la bulle de voyage, tout un programme pour cet été.
Honnêtement Marion, ça sonne mieux que bulle sociale, bulle de voyage, comme ça, non? Avant d'envisager les vacances, l'heure est encore aujourd'hui à la gestion de la crise, bien sûr. Nouveau conseil de défense sanitaire ce matin.
Le gouvernement veut toujours se donner le temps d'examiner les effets des mesures déjà prises dans 19 départements. À l'heure actuelle, pas de signe d'accalmie et désormais 62 départements où le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte. Louis Dragnel, bonjour.
Bonjour.
Dans ces conditions, sur quelle piste planche l'exécutif?
Eh bien, depuis le début de la semaine, l'exécutif tâtonne. Lundi, on nous expliquait que la situation n'était plus tenable et qu'il n'était pas possible d'échapper à un confinement territorialisé. Mardi, plusieurs ministres nous assurent que tout se passe comme prévu et que le président savait que ces semaines seraient difficiles. Et donc il ne faut pas changer de cap, d'autant qu'une livraison record de 3 millions de doses de vaccins est en train d'arriver. Hier soir, l'ambiance a changé. Emmanuel Macron et Jean Castex se sont vus à l'Élysée pour ajuster leur position. Première option, un simple ajustement des mesures actuelles en faisant basculer quelques départements supplémentaires sous le régime du confinement. Deuxième option, avancer les vacances scolaires dans les 3 régions les plus touchées par le virus. Autrement dit, fermer les écoles. Enfin, troisième option, un confinement dur pour donner un gros coup de frein au brassage et interaction sociale. Emmanuel Macron voudrait à tout prix l'éviter et il est toujours à la recherche d'une troisième voie qu'il n'aurait pas encore trouvée à cette heure, selon plusieurs sources. Si finalement le président n'avait d'autre choix que de décider un reconfinement, l'Élysée n'exclut pas qu'il prenne la parole pour expliquer son choix aux Français.
Les précisions de Louis Dragnel pour Europe 1. D'ores et déjà aujourd'hui, nouvelle restriction imposée en Martinique face à la reprise de l'épidémie. Couvre-feu avancé, fermeture des restaurants, des cinémas et des salles de spectacle dès demain.
Dans l'Hexagone, des rassemblements qui une nouvelle fois interpellent, d'autant qu'ils se sont déroulés dans des villes censées être partiellement reconfinées.
300 personnes sur les quais de Saône jusqu'après le couvre-feu à Lyon, à Lille, des parcs bondés comme au Jardin Vauban où la police a dû intervenir. Reportage du correspondant d'Europe 1, Lionel Gougelot.
Une sono au milieu du jardin public, un groupe de jeunes danse une bière à la main, d'autres lézardent ou discutent au soleil. Assez peu de masques sur les visages et surtout zéro distance de sécurité. C'est le seul moment de détente pour Zabou et ses copines.
Il n'y a pas de musée, il n'y a pas de ciné, il n'y a pas de resto, il n'y a rien à faire d'autre. Donc on est là, quoi. C'est sûr qu'on prend un risque. Mais c'est quoi le projet? C'est de rester à la maison toute la journée, de travailler et de rester à la maison? Ben non, en fait. Non, bien sûr, il y a du soleil. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de sortir. Voilà, laissez-nous au moins ça.
Mais à 17h, intervention de la police pour évacuer le parc.
On est sur des apéros géants, en mode pique-nique sympathique d'après-midi, mais la situation ne le permet pas, donc on ne tolère pas.
Le commissaire Charles Barion dirige l'opération.
Au bas mot, on a 3-4 000 personnes, on pourrait faire 3-4 000 verbalisations, mais l'idée c'est tant de faire cesser l'infraction, et après les récalcitrants seront verbalisés systématiquement, forcément.
Alors Kevin remballe ses affaires un peu dépité.
On comprend un petit peu que l'attroupement, ça peut un peu effrayer, mais c'est pas une raison d'être un peu menaçant avec les gazeuses en main, en disant faut y aller, on y va, c'est maintenant, et vous voyez, en 5 minutes, il n'y a plus personne. Les gens, ils ont même pas pu débarrasser, il y a des bières à terre, alors que tout le monde respectait jusqu'à présent. Donc c'est un petit peu dommage, mais sinon c'est pas grave, on va ailleurs tout simplement.
Et le scénario pourrait bien se répéter en fin de journée. On attend des températures de 24 degrés sous le soleil cet après-midi. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Une nouvelle aide pour les commerçants qui n'ont pas pu écouler leur stock, magasins de sport, de vêtements, de chaussures et maroquinerie. Cette subvention s'ajoutera aux aides déjà en vigueur.
7h06 sur Europe 1. Un rapport qui soulève des préoccupations très importantes. Les mots d'un responsable de l'ONU sur les conclusions de l'enquête portant sur une frappe française en janvier dernier au Mali.
Une frappe qui a tué 19 civils selon les investigations de la mission de l'ONU au Mali. Paris assure avoir visé des terroristes. C'est une cérémonie de mariage qui a été touchée, assure le rapport, ce qui va dans le sens des premiers témoignages recueillis sur place, Théo Manval.
Oui, notamment par Médecins Sans Frontières, dont un centre voisin avait vu arriver des blessés. Isabelle Defourny est la directrice des opérations.
Quelques hommes sont arrivés, ils nous ont dit qu'ils étaient des civils, qu'ils étaient à une cérémonie de mariage, qu'il y avait eu des frappes aériennes dans ce village. 7 parmi ces blessés avaient des lésions qui résultaient d'une explosion, et la plupart étaient quand même des hommes âgés, plus de 60 ans, donc pas de façon complètement évidente des combattants.
Des témoins dont l'armée française met en doute la sincérité, dans une zone dont le rapport reconnaît qu'elle est imprégnée par les groupes djihadistes. Il est avéré d'ailleurs qu'au moins 5 hommes armés, membres d'un de ces groupes, étaient sur les lieux de la frappe. 3 y ont été tués. Mais, soulignent les experts de l'ONU, ça ne suffit pas pour affirmer que la centaine de personnes présentes à ce mariage étaient elles aussi des combattants. Ce sont donc bien 19 civils qui ont été tués. Dans un contexte déjà hostile, sur place à l'opération Barkhane, relève le géopolitologue Antoine Glaser.
Sur tous les réseaux sociaux, vous avez en ce moment un sentiment anti-français. Franchement, ça ne pouvait pas plus mal tomber au moment où la France essaie de plus être en première ligne, justement.
Alors, ce qui pourrait lever les soupçons de bavure, ce sont les images de ces frappes dont dispose l'armée française. Mais le ministère des Armées refuse de les publier pour ne pas donner, dit-il, d'informations stratégiques à l'ennemi.
Des précisions de Théo Manval pour Europe 1. Des avocats français et des universitaires saisissent la Cour pénale internationale. Ils demandent une enquête pour crime de guerre, dénonçant la décision de Paris de ne pas rapatrier quelques 300 femmes et enfants français détenus dans des camps en Syrie.
C'est l'une des dispositions du projet de loi Climat et Résilience, actuellement examiné à l'Assemblée. Le développement de la vente en vrac dans les commerces de plus de 400 mètres carrés.
Objectif, y consacrer 20% de la surface de ces magasins. Irréaliste, disait tout à l'heure à 5h40 sur Europe 1 Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution. Malgré tout, le mouvement est enclenché, notamment pour répondre aux attentes des consommateurs, hein, Virginie Selmen.
Oui, et la pression des consommateurs est forte. 54% des Français réclament des marques en vrac, selon un sondage LSA. Ça ne laisse pas le choix pour le directeur de la Fédération du commerce et de la distribution, Jacques Cressel.
Nous allons faire en sorte avec les industriels de nous adapter. Naturellement, nous souhaitons que la loi soit la plus souple possible et ne concerne que les produits qui peuvent effectivement être vendus en vrac. On voit bien que c'est plus facile pour des nouilles que pour des yaourts.
Certains supermarchés testent déjà le vrac sur des produits de marque, selon la présidente de Réseau Vrac, Célia Renesson. Par exemple, les céréales Kellogg's en libre-service ou bientôt le fromage Babybel.
Pour le Babybel, la distribution en vrac, c'est de présenter le petit fromage uniquement avec sa cire, donc ce qui permet d'avoir le choix au niveau de la quantité et de ne plus avoir de déchets d'emballage jetables superflus puisqu'on est uniquement avec la cire qui est la croûte du fromage.
Les supermarchés devront aussi prévoir des stands de récipients, par exemple à côté du rayon boucherie pour emporter sa viande, des contenants à vendre ou sous forme de consignes.
Ils ont soutenu les libraires pendant la crise. Pour autant, les Français ont moins lu l'an dernier. C'est le résultat du baromètre annuel du Centre National du Livre. Les explications ce matin avec Nicolas Carreau pour Europe 1.
86% des Français ont lu au moins un livre en 2020, c'est beaucoup, mais en 2019, ils étaient 92%, 6 points de plus. À cela, plusieurs explications selon Regina Chando, la présidente du CNL, le Centre National du Livre.
La porosité entre le lieu de travail et le domicile. Les gens ont travaillé chez eux, ont eu le sentiment de lire pour leurs études ou pour leur travail, et donc ont consacré moins de temps à la lecture plaisir. Le fait que les transports en commun pour rejoindre le lieu de travail ont été moins fréquents. Or, les transports sont un des premiers lieux de lecture. Et enfin, cette baisse de la lecture, on la constate depuis 10 ans, en particulier chez les jeunes à partir de 15 ans, et y compris chez les très grands lecteurs.
Bonne nouvelle quand même, les Français se déclarent très attachés à leur librairie. 80% des acheteurs s'y sont procurés des livres. Le nombre de lecteurs sur format numérique reste stable. Le roman est toujours le genre le plus lu. Mais en cette période de crise, on observe quand même une forte hausse de l'intérêt porté aux livres de reportage et d'actualité.
Enfin, un rendez-vous ce soir, 20h45, Bosnie-France, troisième match de qualification pour le Mondial de foot 2022.
Merci beaucoup Marion Calais, c'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Entrepreneur social, régulièrement invité pour parler de la jeunesse, des territoires ruraux du pays aussi. C'est un tout autre exercice que se prête Salomé Berlioux, mon invité à 7h40. C'est un roman, un récit très personnel, un témoignage fort sur l'infertilité, le parcours de ces couples entre spécialistes, PMA, échecs successifs. La peau des pêches paraît chez Stock aujourd'hui et Salomé Berlioux nous en parle dans le tête-à-tête Europe Matin. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
L'économie va-t-elle connaître un âge d'or après la crise du Covid? Je vous explique pourquoi. Pourquoi ce scénario fait de plus en plus d'adeptes?
Ce sera juste avant le regard international de Vincent Hervouet. Bon réveil à toutes et à tous.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h13 sur Europe 1, c'est l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Et si l'économie était à la veille d'un nouvel âge d'or? C'est la conviction de nombreux économistes qui parient sur les effets encore mal évalués de la révolution numérique.
Une révolution numérique qui s'est accélérée de manière spectaculaire avec le Covid, on l'a tous vécu. Il se pourrait que le monde en fait, se numérise finalement beaucoup plus vite que ce qu'on avait anticipé, que tous les scénarios précédents, d'où eh bien, ce scénario que détaille le cabinet McKinsey dans un rapport dévoilé aujourd'hui, celui d'un âge d'or qu'on pourrait comparer à ce que le monde a connu lors des 30 glorieuses après la Seconde Guerre mondiale.
Alors l'idée, c'est que le Covid a accéléré dans beaucoup de secteurs la fameuse transition numérique.
Oui, en observant ce qui se passe sur le terrain, dans les entreprises, dans la vraie vie, les consultants de McKinsey relèvent que des entreprises ont digitalisé leurs activités parfois 20 à 25 fois plus vite que ce qu'on croyait possible simplement avant la crise. Ils citent l'exemple d'un groupe de distribution européen qui a enregistré en 8 semaines de vente en ligne la croissance qu'il aurait réalisée en 3 ans avant la pandémie. En fait, à l'issue de la crise du Covid, la productivité pourrait donc connaître une courbe en J, comme on dit, autrement dit une forte croissance dans les années qui viennent, alors qu'avant la crise, le scénario dominant dans les économies développées, c'était plutôt celui d'une stagnation de la productivité, donc du potentiel de croissance.
C'est donc, si je vous suis bien, et on va le souligner, un scénario optimiste qui se dessine.
C'est vraiment optimiste. Oui, alors il y a quand même des conditions. C'est qu'il faut que la numérisation de l'économie, pour qu'elle soit positive, il faut que les compétences suivent évidemment. Il faut donc investir dans la formation encore plus et encore plus vite que ce qu'on anticipait aussi jusqu'ici. Les consultants de McKinsey insistent à juste titre sur ce point, car il va falloir requalifier massivement de la main-d'œuvre dans tous les secteurs, sans quoi cet espoir d'un âge d'or économique laissera la place cette fois à un autre scénario dans lequel les écarts de compétences et de destin se creuseront. Mais on peut l'éviter.
Merci Nicolas Barré. On prend toujours quand il y a un peu d'optimisme, un peu de positif comme ça, voilà. On prend évidemment 7h15 sur Europe 1. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Selon l'ONU, au Mali, l'armée française a bombardé un mariage et pas un rassemblement de djihadistes à Bounti le mois dernier.
Alors il y a deux versions, elles convergent sur trois points essentiels, les 22 morts, et parmi eux pas de femmes et d'enfants, mais des djihadistes armés. Sur le reste, l'opposition est frontale. La défense est droite dans ses Rangers, le groupe armé était pisté, parfaitement identifié, les trois bombes larguées par Mirage 2000 l'ont neutralisé. La guerre faite du haut du ciel à l'américaine comporte des risques, mais le ministère insiste, il avait du renseignement, des preuves qu'il refuse de communiquer, et pour cause, l'ennemi a des oreilles, la guerre continue, 5 soldats français sont morts dans cette zone il y a moins de 3 mois. Côté onusien, l'enquête de terrain a recueilli des centaines de témoignages, sauf qu'ils sont anonymes, que la Katiba Serma terrorise les uns et enrôle les autres. Une association Peul a tout de suite accusé les Français, la rumeur a couru, et les enquêteurs sont arrivés 3 semaines après seulement. Chacun croira ce qu'il voudra. De toute façon, le mal est fait, c'est tout bonus pour la propagande djihadiste. La surprise, c'est que des bureaucrates onusiens au Mali fassent la leçon à ceux qui se battent pour le Mali.
La division des droits de l'homme de la MINUSMA est dans son rôle ?
Son rôle est de s'inquiéter des droits de l'homme, de la femme, des enfants au Mali, vaste chantier. Pas d'accuser la France d'avoir enfreint le principe de précaution, la soupçonner de violer le droit international humanitaire et réclamer l'indemnisation des familles. C'est pure démagogie. La France l'a bien cherché. À s'éterniser au Sahel, elle sera de plus en plus traitée en force d'occupation. Et en plus, elle donne l'exemple.
C'est-à-dire ?
À l'entendre, quoi qu'elle fasse, elle fait mal en Afrique. En janvier, le rapport Stora sur la guerre d'Algérie et la mémoire de la colonisation, que le chef de l'État lui-même considère comme un crime contre l'humanité. La semaine dernière, le génocide rwandais qu'il faudrait reprocher à l'entourage de François Mitterrand. Depuis lundi, le procès du bombardement de Boaké en Côte d'Ivoire et les ministres suspects d'avoir laissé fuir les pilotes. Cet après-midi, Laurent Gbagbo, innocenté par la Cour pénale internationale. Il rentrera chez lui en héros 10 ans après que les soldats français l'ont sorti du palais présidentiel. Un pays qui ne s'aime plus devrait éviter les guerres en Afrique, si amères et tellement ingrates.
Le regard international de Vincent Hervouet tous les matins sur Europe 1. Il est 7h17 et tout de suite c'est l'édito sport de Virginie Fulpin.
Y aura-t-il un boycott de la Coupe du Monde de football au Qatar ? Je me permets de spoiler ? Non.
Ce sera juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. À tout de suite sur
Europe 1. Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 7h20 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On joue depuis une semaine les premiers matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde de football au Qatar. Et plusieurs équipes ont fait passer des messages pour le respect des droits humains. Pour vous Virginie, c'est fondamental de faire pression sur ce sujet. Et c'est plus utile que de parler d'un éventuel boycott de la compétition ?
Bah oui, la parole des joueurs qui se libèrent me semble plus efficace que d'agiter le fantasme d'un boycott qui n'aura pas lieu. La Coupe du Monde se déroulera bien au Qatar dans un an et demi. Jamais une majorité d'équipes qualifiées ne décidera en bloc de ne pas y aller. Regardez la France. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a déjà dit très clairement que les Bleus iraient. S'ils se qualifient, évidemment. Alors la France n'est pas forcément une référence, mais la plupart des sélections ne se mouillent pas trop sur le sujet. La Norvège, par exemple, au contraire, est beaucoup plus offensive. Il y aura carrément un vote à la fédération au mois de juin pour trancher, boycott ou pas. Mais si elle décidait de ne pas participer, ça se verrait moins que les champions du monde en titre. Ça fait 20 ans que les Norvégiens n'ont pas goûté à une compétition internationale. Leur message serait encore plus marquant, cela dit. On n'est pas prêt à tout accepter pour jouer au football. Le problème, c'est que la Norvège se ferait exclure des compétitions pendant plusieurs années et paierait son engagement au prix fort. Est-ce que c'est vraiment la solution pour faire entendre sa voix sur les droits humains ?
Que le boycott n'ait pas lieu ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait aucun moyen de pression.
On le voit depuis le début de ces éliminatoires à la Coupe du Monde, il y a des sélections qui se font entendre. La Norvège, encore elle, l'Allemagne, les Pays-Bas qui arborent des maillots appelant au respect des droits humains, notamment pour les travailleurs étrangers qui construisent les stades. Ce ne sont que des actions symboliques, certes. On peut dire que c'est donner bonne conscience à peu de frais. Il n'empêche qu'on les entend, ces messages, qu'ils ont une vraie portée et que la France pourrait participer. D'ailleurs, la FIFA a décidé de ne pas sanctionner ces sélections, elle qui prône normalement l'absence totale de messages politiques, la preuve que les lignes bougent. Le Qatar sait maintenant que son attitude est scrutée dans le monde entier et que non, on ne peut pas tout sacrifier sur l'autel du football. À la FIFA de peser aussi, en mettant le sujet des droits humains sur la table avec le comité d'organisation, et puis aussi en imposant une charte aux pays candidats au moment de l'attribution des compétitions. C'est à ce moment-là que ça se joue plus qu'en agitant l'éventualité d'un boycott quelques mois avant une Coupe du Monde.
Merci beaucoup Virginie Fulpin. C'est l'édito sport et c'est tous les matins sur Europe 1, 7h22. Et comme tous les jours, il est l'heure de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Parfois pour cette chronique, quand je cherche l'inspiration, je la trouve en regardant par la fenêtre de mon bureau européen qui donne sur la Seine et où il y a encore quelques temps, on voyait passer des bateaux-mouches. Bateaux-mouches. Mais pourquoi on les appelle ainsi ?
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les bateaux-mouches, ce sont de longues embarcations naviguant sur la Seine et qui permettent de voir les plus beaux monuments de Paris d'une façon assez tranquille, assez touristique aussi.
Oui. Tout commence en 1867, c'est l'exposition universelle, et les premiers bateaux-mouches arrivent à Paris sans en avoir encore le nom. Puis l'événement passé, le métro devient rapidement le transport préféré dans la capitale. Après la Deuxième Guerre mondiale, Jean Bruel décide de racheter l'un des derniers bateaux qui avait été utilisé pendant l'exposition universelle pour en faire des promenades touristiques. En 1950, il dépose la marque bateau-mouche. Et là, Mathieu, vous me dites, oui, mais pourquoi bateau-mouche ?
Oui, mais pourquoi bateau-mouche ?
Eh bien, parce que les dit bateau avait été construit dans des ateliers situés à Lyon, dans le quartier de la Mouche. Mais ce n'est pas tout. Pour faire parler de son attraction, Jean Bruel va inventer une légende, celle de Jean-Sébastien Mouche. Il aurait conçu les bateaux Mouche, aurait été le bras droit du baron Haussmann, également le fondateur d'une sorte de police des renseignements généraux, d'où l'expression « être un mouchard ».
C'est vrai.
Mais le plus fort, c'est que tout ceci n'est qu'un grand canular, mais un canular réussi, car on en parle encore 70 ans après. Et demain, 1er avril oblige, on s'intéressera à l'origine du canular, justement.
C'est la première fake news, en fait.
Oui, exactement. Et Virginie, c'est vrai, c'est une fake news.
Et j'ai hâte de l'historique de canular. Historiquement, votre à 16h.
On réunit la modèle devenue peintre, Suzanne Valadon, Hélénice, danseuse du musical devenue pilote automobile sur circuit, et l'actrice Demi Moore. Leur point commun, elles ont posé nues. Mais elles n'ont pas fait que ça, vous l'avez compris.
À tout à l'heure, 16h. 7h24 sur Europe 1. Notez-le bien, évidemment, la tonalité aujourd'hui sur ces annonces attendues. Alors, j'insiste sur l'attente plus que sur les annonces. Est-ce qu'on va simplement serrer un peu la vis ou est-ce qu'on va reconfiner plus durement? On en parle dans nos journaux, dans l'édito politique de Nicolas Bétou, évidemment aussi autour de cette incertitude. Et notez-le bien, 8h15, le professeur Deray de la Pitié-Salpêtrière, néphrologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Gilbert Deray, qui sera au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1, bien sûr. 7h25, dans quelques toutes petites secondes, la météo de Laurent Cabrol et un nouveau journal à 7h30, j'allais dire 8h30, à 7h30 avec Sophie Echen. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et le pic de chaleur, il arrive au top aujourd'hui, c'est le point culminant et nous allons vivre donc une journée extrêmement chaude pour la saison, bien sûr. 28-29 dans les Landes, Biscarrosse par exemple, 27 à Bordeaux et Hendaye, Clermont-Ferrand, Paris, Limoges, Niort, 26 degrés, 25 à Toul, à côté de Nancy, Reims, Lyon, Château-Chinon, Strasbourg, 25 degrés, 24 à Pontivy, La Baule, Lille et Belfort, à Romanche, Toulouse et La Rochelle, 23 degrés. Et puis une petite poche fraîche là-bas, sur les Pyrénées. Non, sur la Méditerranée, pardon. Nice, Marseille, Ajaccio, Perpignan, entre 17, 18, 19 degrés. Pourquoi ? Mais parce que nous avons ces fameux vents marins. Le vent d'automne, d'ailleurs, va souffler encore aujourd'hui. Bon, il fait beau. Ce matin, il fait un peu froid. Il faut se couvrir, vous le savez. Prenez vos précautions, parce que les dictons sont toujours assez parlants. En mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est allé. Mais aussi, si le soleil de mars donne des rhumes tenaces. Voyez que nos ancêtres avaient tout prévu. Alors maintenant, parlons de la suite. Rapidement, demain jeudi, oui, 1er avril, ciel voilé, ça commence un peu à baisser des températures, mais à peine. Vendredi 2, eh bien, les températures baissent de manière considérable. Et la semaine prochaine, tant pis, il faut le dire, ce sera l'hiver.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Eugène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est presque 7h30.
On observe des patients qui sont un petit peu plus jeunes, qui présentent souvent des comorbidités. Les patients jeunes mettent plus de temps à venir à l'hôpital et lorsqu'ils sont admis, ce sont des patients qui sont plus graves.
Elle avait été épargnée par la troisième vague de l'épidémie. La Nouvelle-Aquitaine fait actuellement face à une flambée de cas. La situation pourrait vite devenir critique dans les hôpitaux. Dans ce journal, le mode d'emploi de l'activité partielle pour les parents d'élèves dont la classe est fermée. Et puis ce poisson d'avril avant l'heure de Volkswagen aux États-Unis. La marque allemande a fait croire qu'elle allait changer de nom.
Juste après ce journal, la Toucham, c'est Bertrand Chameroy. Salomé Berlioux, dans 10 minutes, auteur d'un récit poignant sur l'infertilité qui frappe en silence de nombreux jeunes couples. C'est le tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique de Nicolas Bétou.
Parlera, parlera pas. Si Emmanuel Macron prend la parole ce soir, c'est pour annoncer un durcissement des mesures sanitaires. Alors au fait, est-ce que nous avons tous vraiment envie qu'il parle?
Nicolas Canteloup ensuite, qui conseille à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk aujourd'hui, le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mais tout d'abord cette histoire rocambolesque révélée par nos confrères de la montagne à Clermont-Ferrand. Le fils d'un commissaire de police du Puy-de-Dôme s'est autorisé une escapade nocturne avec la voiture de fonction de son père, une virée sans permis et à toute vitesse.
Bonjour Guillaume Bié.
Bonjour.
C'est l'un de ses copains à côté de lui dans le véhicule qui a tout filmé et qui a diffusé les images.
Oui, et c'est bien à cause de ces vidéos postées sur les réseaux sociaux que l'affaire a éclaté, sinon personne ne s'en était rendu compte. Sur ces images filmées par le passager, on voit le jeune conducteur foncer en pleine nuit dans les rues désertes de Clermont-Ferrand,
doucement, doucement,
actionner le deux-tons,
active le truc.
et griller les feux rouges à vive allure. Vérification faite, le chauffard n'est autre que le fils du directeur adjoint des policiers du Puy-de-Dôme. Il a bien 18 ans, mais n'a pas le permis de conduire, ce qui ne l'a pas empêché d'aller au commissariat, prendre la voiture de fonction de son père sans être inquiété et la ramener en fin de nuit, ni vu ni connu. La police nationale a tout de même porté plainte pour vol, enquête confiée à la PJ, sachant que mardi prochain, le fils du commissaire sera jugé au tribunal pour sa précédente virée parce qu'il n'en est pas à son coup d'essai. En décembre, avec la voiture personnelle, cette fois de son père, il avait aussi conduit dangereusement en plein centre-ville un dimanche après-midi. Et une fois interpellé, il n'avait pas hésité à se prétendre policier en exhibant la carte professionnelle de son père.
Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1.
Nouveau conseil de défense sanitaire à l'Élysée ce matin, le 55e. Le gouvernement sous pression va devoir ajuster sa stratégie de lutte contre l'épidémie.
Alors que le seuil des 5000 patients hospitalisés en réanimation a été franchi et la situation s'aggrave dans tout le pays. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, qui accueillait il y a encore deux semaines des malades d'Île-de-France, si la région était jusqu'à présent relativement préservée, aujourd'hui, le CHU de Bordeaux tire la sonnette d'alarme. Mathieu Biais dirige le pôle anesthésie et réanimation. Il témoigne au micro de Stéphane Place.
Il y a une augmentation très significative du nombre de cas en hospitalisation et en réanimation et on se retrouve un petit peu à la limite du système. Il faut savoir qu'on a été obligé par exemple de devoir augmenter le capacitaire en réanimation. On a créé 10 lits de réanimation SAS, ça se fait au prix d'une déprogrammation au niveau des activités médicales et chirurgicales. Nous avons plus d'entrées Covid que de sorties Covid et nous avons en permanence au niveau du CHU de Bordeaux entre 50 et 55 patients qui sont dans des lits de soins critiques. On observe des patients qui sont un petit peu plus jeunes, qui présentent souvent des comorbidités. Les patients jeunes restent très probablement plus longtemps chez eux, mettent plus de temps à venir à l'hôpital. Et lorsqu'ils sont admis, ce sont des patients qui sont plus graves que ce qu'on a pu voir lors des deux premières vagues.
Parmi les potentielles annonces à venir du gouvernement, celle très attendue sur la fermeture des écoles. Vous avez noté les conditionnels, un potentiel très attendu. On attend de voir évidemment. À Paris, 722 classes sont fermées en ce moment. C'est trois fois plus qu'en fin de semaine dernière.
Et face à cette situation, la question de la garde des enfants refait surface. Sur Europe 1, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, rappelait que les parents d'élèves confrontés à ce problème pouvaient être mis en activité partielle quand le télétravail n'est pas possible. Le mode d'emploi avec Olivier Samin.
Si la classe de votre enfant ferme et si l'emploi que vous occupez ne vous permet pas de travailler de chez vous, vous pouvez demander à être mis en activité partielle, ce qui vous permettra de garder votre enfant à la maison tout en touchant 84% de votre salaire net. La marche à suivre est simple, il vous suffit d'obtenir une attestation du chef d'établissement prouvant que la classe est fermée, attestation que vous remettez à votre employeur. C'est lui qui fera ensuite la démarche pour déclencher l'activité partielle. L'autre cas de figure, c'est celui de l'enfant cas contact qui doit du coup rester à la maison. Là, c'est l'assurance maladie qui vous délivrera l'attestation à remettre à l'employeur.
La fin du coup de pouce vélo aujourd'hui. Instauré en mai dernier, le dispositif qui prévoyait une aide de l'État de 50 euros a permis de financer près de 2 millions de réparations selon le ministère de la Transition écologique.
Et puis c'est un poisson d'avril anticipé qui, il faut le dire, a plutôt bien marché. Celui-ci est signé Volkswagen.
Ou plutôt Volkswagen. Le constructeur automobile a annoncé vouloir changer de nom aux États-Unis pour symboliser son passage à l'électrique. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Une annonce très officielle, mais il s'agissait bien d'un canular.
Oui, et beaucoup de monde est tombé dans le panneau. Il faut dire que la marque allemande avait vu les choses en grand. Un communiqué sur le site américain, un changement de nom sur Twitter, un porte-parole de l'entreprise aux États-Unis a même confirmé hier ce changement de nom, Volkswagen, pour symboliser ce passage à l'électrique. Mais l'information a en fait été démentie par un autre porte-parole du groupe. En fin de journée, il s'agit bien d'une blague. Alors pourquoi on y a cru ? Eh bien parce que Volkswagen a l'ambition de devenir le leader mondial des voitures électriques devant l'américain Tesla d'ici 2025, son principal rival dans le secteur. Et puis parce que la marque veut également soigner son image, elle qui est surtout connue aux États-Unis pour le Dieselgate, scandale qui a coûté des milliards d'euros. Finalement, ce poisson d'avril avant l'heure, c'est un coup marketing. Volkswagen fait parler d'elle au moment où elle lance son nouveau véhicule aux États-Unis. Un SUV 100% électrique.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Le monde qui change, avec Google qui va proposer bientôt les trajets les plus écologiques sur son application GPS Maps.
Alors il sera bien sûr toujours possible de choisir l'itinéraire le plus court. Cette amélioration sera d'abord mise en place aux États-Unis cette année, avant d'être étendue au reste du
c'est
monde.
C'est vicieux, hein. C'est-à-dire que concrètement on va vous demander, vous voulez arriver à l'heure ou vous voulez arriver
respecter
propre.
L'environnement, c'est un dilemme.
C'est un peu vicieux.
Et puis il y a du foot tout à l'heure avec la suite des éliminatoires pour le Mondial 2022 au Qatar. La France affronte la Bosnie ce soir, dernier match des Bleu avant l'Euro.
Merci beaucoup Sophie Echen, c'était le journal de 7h30. Vous êtes sur Europe 1, très bon réveil à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Que savez-vous de la procréation médicalement assistée? Du parcours de ces couples frappés par l'infertilité, des années qui passent et des échecs qui s'accumulent. Vous allez beaucoup apprendre en lisant La peau des pêches, apprendre et vous émouvoir sans doute, récit poignant personnel que celui de Salomé Berlioux, la trentaine, témoignage très dur aussi, le tête-à-tête Europe Matin dans quelques minutes. À 8h15, le professeur Deray, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Mais tout de suite, la touche âme, c'est Bertrand Chamerois et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour les enfants. Ce matin, je vous emmène au parc d'attractions chez Mickey.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1, l'heure de la touche âme, le regard de Bertrand Chamerois sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, vous avez été sage les enfants?
Ouais.
Alors je vous emmène au parc d'attractions avec cette info. Il y aura bien un méga centre de vaccination à Disneyland Paris. Alors avant de poursuivre, je m'arrête deux secondes sur cette expression méga centre. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je la lis, j'ai l'impression de faire un bond en 1985. Le préfixe méga, c'est quand même très marqué à 80s. Méga Drive, méga compile, 2 heures de hit non-stop, ou l'expression méga cool. Hey, méga cool, t'es pump, Matt. Bon, le détail qui nous fait comprendre qu'on est en 2021 et pas en 80, c'est qu'en l'occurrence, il s'agit d'un méga centre de vaccination. Eh oui. L'un des hôtels du parc de Mickey va devenir un centre de vaccination géant en avril prochain. Enfin, géant, faut le dire vite. Hein. Je pense que la personne qui a décidé d'appeler ce centre méga centre à Disney, c'est la même qui a créé le nom Ouverture Facile. 1000 injections par jour. 1000. C'est bien. C'est pas un méga centre, un peu d'humilité, c'est un centre où né. Alors, dans ce cas, les gens qui mesurent 1m52 peuvent dire qu'ils sont méga grands, hein, ça n'a pas de sens. Personnellement, se faire vacciner à Disneyland, moi je trouve ça plutôt cool sur le principe. C'est dingo d'imaginer ça. Non. Qui fera les injections? C'est Oncle Picto. Ça va se transformer en parc d'attractions. Rapport à AstraZeneca, allez, stop, j'avais. Je traîne beaucoup trop avec le dessinateur Viandox. En plus, cette vanne nulle ne marche plus puisque le nom du vaccin va changer. Bien vu l'astuce, hein. Les gens sont réticents sur celui-ci, bah rebaptisez-le. Vous avez qu'à lui donner un nom de danse de l'été. On ne dit plus AstraZeneca, maintenant c'est donc Vaxzevria. Hé, Vaxzevria. Alors, j'ai entendu que certains trouvent que transformer Disneyland en centre de vaccination, ça casse le rêve, ça dénature la magie. Ça, on se calme, on ne peut pas arrêter de se plaindre deux minutes. Voilà, barbe. L'expérience restera la même. Des heures d'attente pour un truc qui dure 10 secondes. Voilà, à moins d'avoir un coup de fil. Ça n'a pas changé grand-chose. Bon, peut-être que la parade sera moins féerique. Elle sera très 2021, quoi, avec de nouveaux personnages.
Ah, il va chanter.
Le bout du tunnel, c'est pas court tout de suite. Si tu veux de l'espoir, viens nous voir, on te pique. Il y a Pfizer, il y a Vaxzevria, il y a Johnson et Moderna. Le plus beau contretemps de toute l'histoire de la radio, c'était pour vous, Mathieu. Bonne journée.
Bonne journée à vous, Bertrand Chamerois. Toujours une petite chanson comme ça. Il y a toujours un moment, est-ce qu'il va chanter? Il y va, il se lance. La touche âme, on vous retrouve, Bertrand, à nouveau à 10h avec Philippe Bondel tout à l'heure dans Culture Média. 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Bon réveil sur Europe 1. Un couple sur 8 consulte en raison de difficultés à concevoir un enfant. On sait que ça existe, mais est-ce que vous savez ce que c'est que le parcours de ces couples, de ce que c'est que le quotidien de ces femmes qui connaissent une PMA? Salomé Berlioux est entrepreneur social à la tête de Chemin d'Avenir. On l'a reçu déjà pour nous parler d'éducation, de jeunesse, des jaunes en zone rurale. Cette fois, c'est un récit personnel, un roman, La peau des pêches chez Stock, et Salomé Berlioux est mon invité.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Salomé Berlioux.
Bonjour.
Alors le livre sort aujourd'hui et c'est votre première prise de parole sur le sujet à la radio. C'est un récit très personnel. Il y a le choix du roman pour témoigner, on va en parler. Mais d'abord simplement, ce livre arrive, il va être lu, il va être critiqué. Quel est votre état d'esprit ce matin?
Quand on passe des heures, voire des mois ou des années à écrire, et particulièrement sur un sujet comme celui-ci, on est forcément content et je suis très contente que le livre paraisse. Curieuse de voir comment il va être reçu aussi, puisqu'il aborde un sujet qui relève presque du tabou. Voilà.
Parce que, oui, bah alors précisément, allons-y directement sur ce tabou. Ce livre, il est né d'un manque. D'un besoin d'en parler, d'écouter sur le sujet, d'en parler tout court.
Oui, bah, Quand on écrit un livre sur le sujet de l'infertilité, comme sur d'autres sujets intimes, je pense qu'on part forcément de soi, en partie. Mais dans mon cas, l'acte d'écriture naît au moment où je m'aperçois, et assez vite, que c'est un sujet qui concerne des millions de Français. Vous le disiez, aujourd'hui, selon les statistiques, on voit que c'est un couple sur 7, un couple sur 8 qui consulte pour infertilité masculine, féminine, ou comme dans le cas de Diane et d'Aurélien, les personnages de La Peau des Pêches, une infertilité inexpliquée. Et donc, effectivement, j'ai choisi le vecteur littéraire parce que ça me semblait être le meilleur moyen peut-être d'en parler, alors que très peu de monde en parle, le meilleur moyen d'attirer l'attention sur ce sujet, de montrer que c'est un vrai sujet de société qui probablement d'ailleurs va exploser dans les prochaines années. Des chercheurs montrent que la qualité du sperme a baissé de moitié au cours des 40 dernières années. Donc cette réalité-là, ça va être un des gros sujets des 50 prochaines années, c'est évident.
Et alors j'utilise le mot témoignage, entrons dans le détail. Pourquoi le choix du roman? Vous venez de les citer, les personnages que sont Diane et Aurélien. Vous le dites, c'est votre histoire et en même temps, c'est romancé. On suit ce couple sur 6 années.
C'est un récit littéraire, donc ça veut dire qu'effectivement, on part du très intime pour idéalement toucher au très universel. Je trouvais ça important que le lecteur puisse projeter qui il voulait sur Diane et Aurélien, qu'il soit concerné, parce que j'espère que ce livre pourra aider des couples qui sont dans cette situation et mettre des mots sur le parcours du combattant qu'ils traversent. Et puis, j'espère aussi qu'il y aura beaucoup de lecteurs qui ne connaissent pas forcément cette situation personnellement, mais dont cela concerne les enfants, les collègues, le patron.
On connaît tous des gens à qui c'est arrivé, que ce soit la PMA ou d'autres difficultés dans la procréation. Cela dit, votre témoignage, il est très précis, très technique aussi. Alors c'est toujours accessible, hein, mais c'est très réaliste, dur. Il y a une grande souffrance physique. C'est un rythme de vie, ce sont des années, ce sont des piqûres par dizaines, des interventions multiples sur votre intimité.
Mais ce qui est étonnant et en même temps assez symptomatique, je pense, c'est que quand on parle de la PMA en France aujourd'hui, de la procréation médicalement assistée, on en parle essentiellement sous l'angle d'une ouverture des droits, notamment pour les femmes seules ou les couples homosexuels, et c'est important de mettre ça sur la table, mais on n'en parle quasiment jamais sous l'angle initial qui est une réparation face à une souffrance et à une difficulté médicale de couple à tout simplement fonder une famille. Et dans le cas de Diane d'Aurélien, et c'est pour ça que j'espère que La Peau des Pêches est avant tout une histoire d'amour. C'est un couple qui, comme tous les couples, se rencontre, tombe très amoureux, décide d'avoir un enfant. On peut se dire aujourd'hui qu'on a évidemment le choix, qu'on peut ne pas avoir d'enfant, et c'est vrai. Il n'empêche que 95% des couples font le choix de fonder une famille, et eux tombent sur un os, c'est le cas de le dire.
Mais c'est une ode au couple, hein, ce livre. Il y a énormément d'amour qui est exprimé. Il y a aussi simplement le récit de ce qui est une épreuve commune. Je reviens à la souffrance psychique. Alors, elle est évidemment partout dans le livre, mais simplement après des années de tentatives, il y a cette psy qui secoue Diane, si j'ose dire. Madame, dans le jargon médical, ce que vous vivez, on appelle ça des fausses couches précoces. Et de souligner qu'après plusieurs tentatives, on a transféré à l'intérieur de vous des dizaines d'embryons qui pourraient être vos enfants. On parle de PMA. Quand cela fonctionne, sinon il n'y a que des deuils successifs.
Oui. Mais ce qui est vrai, c'est que parmi les mythes autour de la PMA, il y a l'idée que un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est pas grave, il va faire une procréation médicalement assistée ou alors il va adopter. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont des années de galère, ce sont des échecs à répétition, c'est un apprentissage, ce sont des rencontres avec des médecins plus ou moins attentifs, plus ou moins empathiques, et ce sont effectivement des échecs surtout, et qui transforment toute la vie. Et j'avais envie avec ce livre de montrer que quand un couple est face à une épreuve, et il s'avère que là c'est la question de l'infertilité, mais parmi vos auditeurs, des couples dans cette situation-là, que ce soit l'infertilité, que ce soit les fausses couches à répétition, ou que ce soit d'autres types d'épreuves d'ailleurs, un deuil, le chômage, une séparation douloureuse, ma question était: que devient le couple, que devient une histoire d'amour face à ces difficultés-là? Et Diane et Aurélien, ils doivent changer, s'adapter dans leurs projets, dans leurs espoirs, dans leur compréhension de ce qu'ils sont, et c'était ça que je trouvais intéressant, cette ouverture-là.
On y trouve un autre tabou, bien sûr, les enfants, la famille, les poussettes, les ventres arrondis, ils sont évidemment partout et c'est socialement interdit de se plaindre d'avoir des enfants autour de soi. Il y a ce point qui est quand même essentiel dans le livre. Vous n'êtes franchement pas tendre avec le corps médical, les spécialistes en particulier.
Alors oui, vous remarquerez qu'il y a deux types de médecins dans le livre et je pense, pour m'être nourrie de témoignages pour le coup de couples en procréation médicalement assistée, mais d'ailleurs pour connaître aussi des tas de gens qui suivent des interventions médicales, chirurgicales, il y a un peu deux types de médecins. Il y a ceux qui se lancent dans la médecine comme on se lance presque en religion et qui sont extrêmement dévoués à leurs patients. Et puis, il y a tous les autres qui semblent aussi, et sans juger d'ailleurs de leur capacité académique, technique, mais qu'il n'y a pas de relation patient médecin et qui refuse ça, peut-être par désir de se protéger.
Il y a ce médecin qui a calé ses vacances malgré vos rendez-vous prévus de longue date et qui vous répond, écoutez madame, vous comprendrez bien que je ne vais pas caler mes vacances en fonction des règles de mes patients.
Oui, et on comprend bien, on est obligé de comprendre en tout cas quand on est dans cette situation-là.
Oui, obligé de comprendre, il faut retenir le obligé, c'est un côté impitoyable parfois évidemment, tous ne sont pas comme ça, évidemment je le souligne
non,
aussi.
Vraiment.
Alors il y a deux petites questions pour terminer, Salomé Berlioux. D'abord, il y a cette idée, cette menace au fond dans le livre, en filigrane, cette construction sociale. Est-ce que la féminité n'est complétée que par la maternité ?
Oui, ça fait partie des grandes questions. En tout cas, aujourd'hui, cette question-là, elle est posée. C'est-à-dire, est-ce qu'une femme, pour être une femme, est obligée d'être mère ? Et c'est évident que non. On peut faire le choix de ne pas être parent. Mais quand on a fait le choix d'être parent et qu'on n'y arrive pas, et que toute la vie peut reposer autour de cette absence et devoir se réorganiser autour de cette absence, c'est autre chose. Et puis, la question de la femme, elle est vraiment abordée dans le livre sur des sujets qui ont trait sur le plan médical, à l'endométriose, par exemple. Une femme sur 10 aujourd'hui est touchée par l'endométriose, c'est une des premières raisons d'infertilité féminine. Et la façon dont, c'est vrai, et on le dit beaucoup, hein, mais le rapport au corps de la femme, à sa souffrance, relève parfois encore un petit peu du Moyen-Âge.
Tout commence en juin 2015, on y voit tout ce que vous avez vécu, traversé, c'est romancé aussi, c'est raconté dans le livre. Salomé Berlioux, à celle que vous êtes en juin 2015, que dites-vous aujourd'hui ?
En tout cas, aux femmes et aux hommes qui se lancent dans ce parcours, j'aimerais leur dire essentiellement que ça risque d'être long, qu'évidemment il y a des happy ends merveilleux et qu'il faut s'accrocher à cette idée, mais qu'ils peuvent et qu'ils doivent idéalement se protéger et comprendre que ça va être une course de fond. Et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans le livre, avec, vous le disiez, une forme de lucidité implacable, parce que c'est très factuel, et en même temps, j'espère, de l'humour, de la poésie, une forme de douceur, parce que la vie, elle est ça aussi, elle est douce et âpre, et c'est un peu l'histoire de ce livre.
Et on a choisi délibérément de ne pas raconter la fin, on va laisser au lecteur le plaisir du roman chez Stock, La peau des pêches, Salomé Berlioux.
Merci.
Alors on comprend pourquoi ce titre mystérieux dans le livre, bien sûr. Et on vous retrouve bientôt pour décrypter la jeunesse, ces questions d'éducation, les zones rurales, Salomé Berlioux.
Exactement, oui, je reviendrai pour ça aussi.
À très bientôt, merci beaucoup. 7h51 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'édito politique, Nicolas Bétou, dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou, tous les matins. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Parlera pas, l'incertitude est toujours aussi forte autour d'une éventuelle intervention d'Emmanuel Macron ce soir.
Oui, nous sommes une fois de plus suspendus à la parole présidentielle. Les macronologues se perdent en conjectures, analysent les signaux faibles émis par le château, soupèsent les confidences des entourages et scrutent le calendrier du chef de l'État en soulignant « Mais c'est bien sûr, c'est un signe que les ministres ont été priés de se taire » pour ouvrir un boulevard médiatique au président. De leur côté, les castexologues ont analysé l'échec de la prise de parole du Premier ministre il y a 10 jours, et ils en déduisent que seule la voix du président doit maintenant s'élever.
Ce qui veut dire qu'il va parler.
Ou pas, parce que en réalité, s'il parle, c'est pour durcir les fameuses mesures de freinage supplémentaires qui se seront révélées inefficaces. Pour le dire autrement, s'il parle, c'est pour annoncer une mauvaise nouvelle, pour reconnaître que l'épidémie échappe une nouvelle fois à tout contrôle, ou que son choix de ne pas fermer les écoles ne tient plus.
Alors ça, c'est un peu la vision pessimiste, parce qu'Emmanuel Macron s'est exprimé ces derniers jours, et même plusieurs fois.
Oui, pour commémorer le bicentenaire de l'indépendance de la Grèce, ou en pleine nuit à l'issue du sommet européen, ou pour livrer quelques confidences au journal du dimanche. Mais attention, à chaque fois qu'il a parlé de la crise sanitaire, c'était pour justifier ses choix, pour écarter toute idée de mea culpa ou de remords. Alors, s'il s'exprime cette fois, ça ne doit pas être pour dire ce qui s'est passé, mais ce qui va se passer. C'est ça qu'attendent des millions de Français.
Et s'il ne parle pas, ou alors pas tout de suite ?
Alors la course contre le virus continuera à quelques éventuelles modifications près. C'est un pari sanitaire, on l'a beaucoup dit. C'est un pari de communication aussi, parce que pendant ce temps, pendant que la parole présidentielle se fait attendre, la communauté médicale, elle, parlent dans tous les sens, le plus souvent d'ailleurs pour rappeler au confinement. S'ils ne parlent pas ou pas tout de suite, alors la stratégie de l'Élysée continuera à s'appliquer, gagner du temps, atteindre ces fameuses 6 semaines qu'on nous avait fait miroiter comme celle de l'ultime effort. On sera alors à quelques jours de la mi-avril, date à laquelle nous devrions enfin être à la tête d'un énorme stock de vaccins et d'une troupe fournie de vaccinateurs. À ce moment-là, quelques 10 millions de Français devraient être vaccinés. Et Emmanuel Macron pourrait dessiner une perspective autre que celle de l'enfermement. En fait, je vais vous dire, pourvu qu'il ne parle pas ce soir.
Votre édito tous les matins dans Europe Matin, juste avant 8h. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et tous les matins, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le professeur Gilbert Deray, chef de service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et c'est François Hollande qui est venu dire un petit mot au professeur.
Oui, monsieur Béliard, bonjour. J'ai goûté les paroles de monsieur Bétou. Effectivement, nous attendons tous la parole d'Emmanuel Macron, enfin, de son Altesse Emmanuel Ier. La parole du Messie qui devrait resserrer les boulons. On attend, paraît-il, un nouveau tour de vis. C'est plus Jupiter, ça devient monsieur Bricolage. Vous avez vu dans le monde, vous savez que les proches de monsieur d'Emmanuel Macron disent qu'il est un petit peu devenu épidémiologiste, carrément.
Alors en gros, ils disent que le président n'écoute plus vraiment les scientifiques car il a, d'après ses proches, une maîtrise des travaux épidémiologiques.
Non mais Macron, épidémiologiste, franchement, d'ailleurs si le professeur Gilbert Deray a des lacunes, mais qu'il aille à l'Élysée prendre des cours du soir peut-être.
Oui, bonjour Marina, c'est Michel Simès. Le président Macron est effectivement atteint, d'après ce que nous savons, d'une inflammation de l'encéphale appelée bourrichonite ou Alain Delonite.
C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de la matinale. Aujourd'hui, le professeur Gilbert Deray au micro de Sonia Mabrouk à 8h15 et Nicolas Canteloup, c'est la revue de presse à 8h45 sur Europe 1. 7h59, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Alors un rappel, pour aujourd'hui c'est exactement le même type de temps qu'hier avec des températures en hausse, record à battre probablement aujourd'hui en matière de chaleur sur Paris, Nancy, Saint-Brieuc, Cognac et Lyon qui sont des villes encore plus chaudes qu'hier, mais ça sera donc une journée d'été quasiment. Demain ça sera pas trop mal avec des températures stationnaires. Vendredi le plongeon commence, 8 à 10 degrés de moins sur la moitié nord, vous voyez que la chute sera vertigineuse. Et puis samedi dimanche la dégringolade se poursuit, ça ira pas bien du tout, les températures deviennent vraiment très fraîches pour ne pas dire froides, et la semaine prochaine, la fraîcheur, le froid vont se poursuivre. C'est la fameuse doudoune dont je vous parlais il y a 10 jours en disant il ne faut pas la ranger, et bien on ne la range pas. Voilà.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Très bon réveil avec Europe 1, on écoute le monde changer.